Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée Les poèmes du lundi sur fréquence Mistral 99.3. Parmi les rescapés des camps de concentration nazis, combien ont été capables de savoir répondre à cette question plus de 100 fois posée? Comment c'était là-bas? Ne savaient-ils pas pourtant ce qu'il y avait à dire? N'éprouvaient-ils pas, mobilisés dans leur gorge, toute l'alerte encore brûlante de leur chair et de leur esprit? Mais ils demeuraient muets. Tout juste esquissait-il un léger geste de la main comme d'excuse ou d'humilité. C'est qu'il se rendait compte que le vocabulaire de l'homme en paix ici est absolument incapable de traduire l'existence qui sévissait dans les camps, qu'il soit d'extermination brutale, de mort lente, c'est-à-dire l'existence là-bas, c'est-à-dire la vie de l'inimaginable, parce que ce vocabulaire n'a pas le moyen fulgurant de pénétrer dans la zone interdite. Et c'est comme si un mur s'était dressé soudain entre eux, qui étaient questionnés, et leurs interlocuteurs. Ce mur, c'est le mur de l'indicible. Non, mon propos n'est pas de parler de ce qui s'est passé, des livres, des films, ce qui s'est passé dans la supplice infligée par les nazis et livré pour application aux exécuteurs SS, ni sur le sadisme de ceux-ci, toutes horreurs conçues, montrées d'autre part, tous les films, l'enclos, capot, etc. Non, mon propos est de mettre en lumière le pouvoir privilégié de la poésie concentrationnaire, c'est-à-dire les poèmes écrits dans les camps nazis et inspirés par eux, parce qu'elle seule nous permet de pénétrer, au-delà des apparences démentielles, au-delà du décor innommable, au-delà du mur de l'indicible, dans le domaine de l'inimaginable, pour y découvrir ce que fut l'homme sous la lamentable défroque rayée du concentrationnaire. Seuls les poètes des camps sont en effet capables de révéler ce qu'était l'inimaginable et de répondre ainsi aux questions plus de 100 fois posées, parce que leur cri a été provoqué par cet inimaginable et dans son domaine même, parce que la poésie concentrationnaire, par l'emploi spontanément judicieux du verbe et de l'image, par le recours direct aux vertus natives du vocabulaire, rappelle, et j'oserais dire même informe, qu'il existe dans l'homme à son insu une région inexplorée, un tuf tout vibrant de substances fraternelles, une puissance qui consacre la permanence de l'indestructible, fondement même de l'espèce humaine, pour reprendre dans le sens qui leur a donné les termes chers à Robert Antelme. Alors n'est-il pas logique de découvrir que les grands thèmes de la poésie concentrationnaire sont fraternité et espérance? Ce qui sous-entend ces autres vertus qui ont nom, courage, abnégation, résistance de l'être, amour. Et bien que paradoxalement on ait pu lire inscrit en lettres géantes au-dessus des portes des camps, vous qui entrez ici, laissez toute espérance. J'ai pu parler plus haut d'apparence démentielle. Oui, il est vrai, les témoignages, les essais, les films sur les camps de concentration peuvent susciter l'horreur, l'effroi est rétrospectif et, dans le meilleur des cas, la pitié. Pourtant, il est de mon devoir de dénoncer ceci. Si on ne voit, si on ne veut voir dans le décor hallucinant du camp qu'un troupeau d'êtres apparemment soumis, apparemment déjetés corps et âme, d'êtres offrant tous les symptômes de la dégénérescence, sorte d'insectes monstrueux aux membres filiformes, aux pieds et aux articulations enflées par les œdèmes, un crâne démesuré et aux plaies purulentes. Si en somme on ne sait admettre qu'horreur, répugnance et parfois quand même pitié, on contribue sans en être sans doute conscient au triomphe du nazisme. N'est-ce pas accepter en effet les raisons invoquées par les nazis afin de justifier l'extermination aussi bien des sous-hommes, ceux-là même qui, comme l'a dit Benjamin Fondane, n'ont commis d'autres crimes que d'exister, que de ceux qui, dans l'ombre de la clandestinité, affrontaient l'ennemi parce qu'ils avaient compris quelle menace cet ennemi, 30 ans après, des années après, ferait peser sur le genre humain encore. N'est-ce pas reconnaître d'ores et déjà la possibilité, l'inéluctabilité d'un nouveau nazisme? N'est-ce pas se ranger aux côtés de ceux qui, dans tous les pays occidentaux, font à nouveau apparaître l'ombre de la croix gammée et ainsi se rendre complices de ceux-là qui n'ont qu'un but, préparer à la démission totale du métier, du devoir d'homme? Mais la poésie concentrationnaire existe. Elle est là, dans ses pages réelles, formelles, et c'est la grandeur des poèmes écrits par les hommes et les femmes des camps. Poèmes d'autant plus précieux qu'ils sont d'une extrême rareté et qu'ils furent souvent créés par des hommes et des femmes qui n'avaient jusqu'alors jamais été préoccupés de poésie. C'est la grandeur de ces poèmes, dis-je, de donner enfin à connaître aujourd'hui les visages vrais de ceux et de celles qui furent déportés et enfermés dans les camps de concentration nazis entre 1933 et 1945. C'était un texte de Henri Pouzol. Le poème suivant est de Robert Desnos, qui a paru en 1943 sous la signature de Valentin Guillois dans la revue clandestine Europe. Appel aux mortes. Battez, tambours, crevez les murs de la mémoire. Rompez les parois du barrage où se heurte le flot des morts. Battez, tambours, de l'autre côté du décor afflue au jour le froid, le givre et la neige du petit matin qui fige la peur et les mains, la main, la nuit voûtée, pesante, lasse des hurlements qui trouent le noir, nous, indivises. Battez, tambours, pour les mortes et pour les vives, qu'enfin se brise le mur qui nous sépare. Battez, tambours. Ah, la digue s'est écroulée, voici que nos mortes arrivent. Tout comme un écho, mais sublimant, sublimé, au cri perçu par le veilleur du pont au change. Voilà le veilleur du pot au change, pot au change. Je suis le veilleur de la rue de Flandre, je veille tandis que dort Paris. Vers le nord, un incendie lointain rougeoie dans la nuit. J'entends passer des avions au-dessus de la ville. Je suis le veilleur du point du jour. La Seine se love dans l'ombre. Derrière le viaduc d'Auteuil, sous 23 ponts, à travers Paris, vers l'ouest, j'entends des explosions. Je suis le veilleur de la porte dorée, autour du donjon de bois de Vincennes, épaissi ses ténèbres. J'ai entendu des cris dans la direction de Créteil, et des trains roulent vers l'est avec un sillage de chants de révolte. Je suis le veilleur de la poterne des peupliers. Le vent du sur m'apporte une fumée âcre, des rumeurs incertaines et des râles qui se dissolvent quelque part dans Plaisance ou Vaugirard. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, ce ne sont que fracas de guerre convergeant vers Paris. Je suis le veilleur du pont au change, veillant au cœur de Paris, dans la rumeur grandissante où je reconnais les cauchemars paniques de l'ennemi, les cris de victoire de nos amis et ceux des Français, les cris de souffrance de nos frères torturés par les Allemands d'Hitler. Je suis le veilleur du pont au change, ne veillant pas seulement cette nuit sur Paris, cette nuit de tempête sur Paris, seulement sur sa fièvre et sa fatigue, mais sur le monde entier qui nous environne et nous presse. Dans l'air froid, tous les fracas de la guerre cheminent jusqu'à ce lieu où, depuis si longtemps, vivent les hommes. Des cris, des chants, des râles, des fracas, il en vient de partout. Victoire, douleur et mort, ciel couleur de vin blanc et de thé, des quatre coins de l'horizon à travers les obstacles du globe, avec des parfums de vanille, de terre mouillée, de sang, d'eau salée, de poudre et de bûcher, de baisers d'une géante inconnue enfonçant à chaque pas dans la terre grasse de chair humaine. Je suis le veilleur du pont au change et je vous salue au seuil du jour promis, vous tous, camarades de la rue de Flandre, à la poterne des peupliers, du point du jour à la porte dorée. Je vous salue, vous qui dormez après le dur travail clandestin, imprimeur, porteur de bombes, des bords, des boulonneurs de rails, incendiaires, distributeurs de tracts, contrebandiers, porteurs de messages. Je vous salue, vous tous qui résistez, enfants de 20 ans au sourire de source. Car la terre est un camp illuminé de milliers de feux. À la veille de la bataille, on bivouaque par toute la terre. Et peut-être aussi, camarades, écoutez-vous les voix qui viennent d'ici, quand la nuit tombe, qui déchire des lèvres avides de baisers, qui volent longuement à travers les étendues comme des oiseaux, migrateurs qu'aveugle la lumière des phares et qui se brisent contre les fenêtres du feu. Que ma voix vous parvienne donc chaude et joyeuse et résolue. Sans crainte et sans remords, que ma voix vous parvienne avec celle de mes camarades, voix de l'embuscade et de l'avant-garde française. Écoutez-nous à notre tour, marins, pilotes, soldats. Nous vous donnons le bonjour, nous ne vous parlons pas de nos souffrances, mais de notre espoir. Au seuil du prochain matin, nous vous donnons le bonjour. À vous qui êtes proches et aussi à vous qui recevez notre vœu du matin, au moment où le crépuscule en bottes de paille entrera dans vos maisons. Et bonjour quand même et bonjour pour demain. Bonjour de bon cœur et de tout notre sang. Bonjour, bonjour, le soleil va se lever sur Paris, même si les nuages le cachent, il sera là. Bonjour, bonjour, de tout cœur, bonjour. Tu coupes, là, tu distances quand c'est... Voilà. Mais la cellule de la prison au camp, mais le baraquement du camp, c'est encore la patrie. Ne partage-t-il pas la chair du ciel entreaperçue par quelques lucarnes? Ne foule-t-il pas le sol de la terre qui les a vus naître? Ne se sente-t-il pas appartenir encore à un tout plausible, évident, où la matérialité et l'esprit conjuguent leur pouvoir encore intact, malgré les interrogatoires répétés, malgré les tortures infligées, souvent malgré l'apprentissage qu'il leur est ordonné de se soumettre aux aboiements rauques? Pouvoir encore intact, oui, et je peux même dire pouvoir affirmé, exalté. Les poèmes dès lors ne se départent pas d'un ton familier. Alors, ce soir, je pense à mon jardin où s'amassent les feuilles mortes. Ce soir, je pense à mon jardin. J'aurais bien voulu, c'est certain, faire le tour de mon jardin. Les bonds de mon chien pour escorte. J'aurais bien voulu, c'est certain, faire le tour de mon jardin où s'amassent les feuilles mortes. Mais que le diable les emporte, ils ont trop bien fermé la porte. Ce soir, je pense à mes amis, ils viennent à moi en cohorte. Ce soir, je pense à mes amis, j'aurais bien voulu, c'est permis. Serrez vos mains, oh mes amis, vos bonnes mains chaudes et fortes. J'aurais bien voulu, c'est permis. Serrez vos mains, oh mes amis, qui venez vers moi en cohorte. Mais que le diable les emporte, ils ont trop bien fermé la porte. Mais s'y inscrivent déjà en filigrane les forces vives qui s'imposeront plus tard avec nécessité à ceux qui auront été déportés. Ainsi, c'est la patience qui suppose l'espoir. Alors, c'est un cœur et une voix qui se répondent. Le cœur. Soir de Compiègne, terre grasse et cependant stérile, terre de silex et de craie dans ta chair. Nous marquons l'empreinte de nos semelles pour qu'un jour la pluie de printemps s'y repose comme l'œil de l'oiseau et reflète le ciel de Compiègne. Avec tes images et tes astres lourds de souvenirs et de rêves, plus durs que le silex, plus docile que la croix, que la craie, sous le couteau. Une voix. À Paris, près de Bourg-la-Reine, j'ai laissé seuls mes amours. Ah, oh, que les bercent les sirènes. Je dors tranquille, oh mes amours. Et je cueille à l'ail les roses que je vous porterai un jour alourdies de parfums et de rêves et comme vos paupières écloses au clair soleil d'une vie moins brève, pleine d'éclairs comme un silex, lumineuse comme la craie. Cœur, et craie, silex, et silex, et craie. Sol de Compiègne, sol fait pour la marche et la longue station des arbres. Sol de Compiègne, pareil à tous les sols du monde. Sol de Compiègne, un jour nous secourons notre poussière sur ta poussière et nous partirons en chantant. Une autre voix. Nous partirons en chantant vers nos amours. La vie est brève, bref, le temps. C'est l'espoir, farouchement accroché au cœur, c'est l'espoir, mais encore à l'échelle normalement humaine, parce qu'il n'a pas atteint ce stade de la fraternelle et universelle espérance qui, vacillant au vent de la détresse concentrationnaire, constituera une de ces flammes rares, seules susceptibles d'alimenter la volonté de vivre. Un chant s'envole et monte, remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous. Vous ne pouvez savoir combien dur est l'attente et le silence lourd. Fenêtres grillagées, bâtisses où règne l'ombre, où le soleil ne luit qu'entre des murs très hautes, où le regard cherchant des horizons nouveaux se heurte à la grisaille, l'uniformité sombre. C'est la triste roquette où, bien loin de la vie, sont celles qu'on accuse d'aimer trop leur patrie. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous! Vous ne pouvez savoir combien dur est l'attente et le silence lourd. Tourner sans cesse autour de la vieille fontaine, voir toujours des barreaux, des portes verrouillées, se sentir là, passive, le cœur rempli de haine et ne pouvant rien faire qui puisse vous aider. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, délivrez-nous! Vous ne pouvez savoir combien dur est l'attente et le silence lourd. Quand hurle la sirène aux longues nuits de veille, ou que parvient à nous l'écho de vos exploits, notre cœur bat plus fort, plus forte, et notre foi, car la France est debout et les partisans veillent. Un chant s'envole et monte et remplit le faubourg, clamant bien haut la haine, la souffrance et l'espoir. Français, oui, nous voulons lutter, agir, avoir notre peine au combat, notre part au combat, faire luire les beaux jours, oui. Et l'espoir ne peut-il pas s'alimenter encore de ce courage que les possibles années de déportation n'ont pas eu à entamer? Un autre poème, « Je trahirai demain ». C'est un poème écrit par Marianne Cohn, dite Colline. En novembre 1943, en cellule, cette militante exemplaire des jeunesses sionistes de la zone sud fut fusillée le 8 juillet 1944 et son corps retrouvé dans un charnier quelques jours après la libération. Je trahirai demain. Je trahirai demain. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain! Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne me faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau, la lime n'est pas pour le bourreau, la lime n'est pas pour le barreau, la lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire, je trahirai demain. Oui. Leçon de courage au plus noir de la cellule quand on a 16 ans.
Thank you.
la lutte dans le chaos, le commerce avec la mort. Squelette, squelette, où vas-tu? Que fais-tu? Tu déambules, clopinant, ridicule, oscillant d'une jambe sur l'autre, te cambrant pour remplacer l'action de tes muscles disparus, cherchant à chaque instant à rattraper ton équilibre, les bras tendus en balancier, en cherchant un appui, tête ballante, sexe ballant. Squelette, squelette, où vas-tu? Tu es nu. Tu crois bien, en entrant ici, toucher au port, au repos, mais le capot est encore derrière toi, à te houspiller. Schnell! Schnell! Et te rudoie. Un rictus déforme tes traits, tes yeux grands ouverts, étonnamment béants, ont des pupilles démesurées. À quoi penses-tu? Tu penses à ta femme dodue, à sa robe de toile empesée, brodée, à tes enfants aux cheveux de lin. Allons, avance encore un peu. Tu penses à ta noce bruyante, aux violons et aux accordéons, au cortège joyeux dans les champs de blé. Tu tombes, relève-toi, et plus vite que cela, tu revois les filles en longues nattes et entends leur rire le soir dans la grange. Allons, debout, tiens, voilà le capot qui lève son bâton. Tu penses à la nuit qui suivit, au lit où l'on s'enfonce, où l'on est si bien pour dormir. Tiens, tu souris, tiens, tu es mort. Écrit par François Witterwald Munthausen. Voici l'homme dans l'intimité immédiate de la mort. Ses vers nous le montrent, et bien sûr l'horreur, mais non. Lisez encore, relisez. À pas précautionneux, l'homme s'apprête à franchir le seuil qui s'appelle trépas. À pas compter, il s'apprête à pénétrer dans l'inconnu. Il le sait bien, mais ce n'est pas... encore ce besoin ô combien naturel de repos total qui doit nous frapper, encore qu'il ne faille pas déduire de sa part un reniement, une faiblesse. Non, il faut justement voir là quelque chose de ce commerce constant avec la mort, de ce commerce éhonté, mais je dirais logique, qui s'est noué dans les premiers temps de la déportation, dans le chaos noir où le corps, par hasard, ne s'est pas trouvé dans la trajectoire du coup mortel porté par le SS ou le capot, où la maladie, par hasard encore, n'a pas décimé dans le malaxage voulu par les nazis des races et des nationalités qui s'affrontent sans qu'il leur soit donné de se comprendre, des appétits qui se disputent, des réactions trop tôt primitives qui se lacèrent dans le tumulte des tragédies qui se nouent à l'intérieur même de chaque crâne et où la raison parfois bascule. Il s'est élaboré à notre insu un être nouveau. De ce commerce constant avec la mort qui surgissent des concepts de vie totalement différents de ceux qu'il est normal de constater dans le comportement du monde normal. L'un d'entre eux, et non le moindre, est qu'il est aisé de s'entendre avec la mort. De là, la possibilité de nouer, puis d'entretenir avec elle le dialogue, le familier déconcertant dialogue, le dialogue qui se déroule dans le climat d'au-delà la mort, dans de ça la vie. Alors, pour le squelette, qu'importe donc que le capot lève son bâton, puisque... Tandis que la mort prendra les escaliers pour fermer ici et là quelques paupières lourdes, la musique partout giclera comme le sang, si puissante et si dévorante, si près des puretés anciennes, que nous pénétrerons sans crainte et sans nausée dans l'eau tranquille de la mort. Ça, c'est extrait de Titanic, écrit par Benjamin Fondane peu avant son arrestation, le 8 mars 1944, et qui parut sous la signature d'Isaac Le Quedem dans la clandestinité. Benjamin Fondane fut déporté à Birkenau. Il mourut le 3 octobre 1944. Aube au bloc 30 à Dachau. Nourriture pâle venue du ciel, aube sale, aube typhique, la dernière lune tombe, le premier jour se lève. Les capots hurlent, les capots fouettent, les capots rampent, le Seigneur apparaît. Les créatures nues tentent d'arrêter leur tremblement, mais le tremblement des extrémités œdémiques est le plus fort et les créatures oscillent au vent allemand, et les créatures oscillent aux cris allemands, et les créatures oscillent aux ordres allemands. Eins, zwei, drei, alles da! Les dents mordent la pourriture, les gens, les dents tranchent la langue. Le copain de gauche chavire et si je m'écarte, le copain de gauche est mort cette nuit, est mort voici une heure, avec le premier jour, avec le premier hurlement, dans le dernier délire. Mort, pas mort, vivant, pas vivant. Alles Stück da, jawohl, lieber Mann, jawohl. Répond le corps debout présent. Je suis présent, présent, présent. Le capot est content, le seigneur est content. Le compte est juste, mein lieber. Le compte est juste, chien de Haftling. Oui, le compte est juste, mon ami, le compte est juste, mon camarade. Et la vie est juste qui t'enlève avant le délire de mai sous la neige, qui ne te recouvrira pas avant le délire de mai, que tu ne vivras pas, mais tu tueras. Mais qui tuera ceux-là qui te soutiennent debout à l'heure de l'appel, debout entre le bloc 30 et le bloc 28? Mon camarade est mort, son regard gît dans la flaque brune, son regard y rejoint la dernière lune. Qui donc ne l'envie pas? Tu es libre, mon camarade. Tu n'as plus à demeurer, Mutzen, Ab, dans le gris sale de l'aube. Tu n'as plus à rêver d'une aube de café noir, tu n'as plus à dénombrer sur la couverture chassieuse les 200 poux quotidiens, tu n'as plus à ramper d'une grille à l'autre grille, tu n'as plus à guetter dans le ciel le lent cheminement des forteresses volantes, et encore, plus de fuite sous les goumis, plus de fuite dans la boue, plus de chiens à chaque barrière, plus de capot à chaque carrefour, ni de bottes sur tes os, et vroom sur Munich, et vroom sur Augsbourg. Ah, oh, le bon, oh, le beau travail des hommes libres. Mais c'est loin. Jamais, oh non, jamais. Et même si tu voulais, tu ne pourrais pleurer, œil de mon camarade dans la flaque brune. Mon camarade est libre, et moi je suis seul dans le premier jour, et moi j'attends que la grappe fraternelle s'agglutine autour de moi. J'ai si froid. Mais si je pouvais, mais si le capot voulait, j'irais au Waschraum. J'irais m'asseoir sur la pile des corps posés comme les beaux tas de bois dans la clairière d'autrefois. Et peut-être verrais-je remuer le doigt de mon copain. Et peut-être verrais-je s'ouvrir l'œil de mon copain. Et peut-être pourrais-je l'entendre, mon copain, mon camarade debout dans la file oscillante. Là, le second de la pile de corps, c'est lui. Je le reconnais. Il me dirait... Oh oui, j'en suis sûre, il me dirait, mon ami, viens avec moi. Si tu savais combien c'est bon, si tu savais combien c'est mieux que quand nous couchions tête bêche sur le grabat de la Stubeins. Je suis seule dans le premier jour, oh mort, je ne t'aimerai jamais autant qu'en cette aube d'hiver. Entre le bloc 30 et le bloc 28, en 1945, à Dachau. Ce poème que vous venez d'entendre aube au bloc 30 à Dachau, écrit au sortir du camp de Henri Pouzol. Cette lumière, une lumière qui porte au dépassement de soi, qui éclaire la nécessité de la lutte pour l'espèce humaine, qui rappelle avidement que le combat n'est pas terminé lors même que l'ennemi vous réduit en esclavage et qu'il se continue sur le plan des dimensions universelles. Cette lumière, c'est d'elle que parle Paul Éluard dans la préface qu'il écrivit pour le recueil posthume du poète belge René Blic, déporté au camp de Neuengamme et qui fut tué dans la Baltique aux heures de l'évacuation du champ, du camp. Cette vie qu'il a perdue tient toutes les promesses de la lumière, lumière non pour lui mais pour tous, et qui mettra désormais de son absence à nous moins de temps à nous parvenir que d'une étoile. Lumière qui est la seule clarté terrestre et que les hommes allument à chaque pas, plus claire et plus haute dans la nuit où ils s'avancent, dans la nuit qu'ils dissipent et qu'ils connaissent, acceptant le malheur comme un combat et opposant leur foi à la sienne. Non. On ne tue pas l'indestructible. Or, le concentrationnaire est receleur de cet indestructible. Il veut survivre. Il veut vivre. La flamme qui luit intensément dans son regard étrangement élargi en est la meilleure preuve. Cette flamme que je nomme à nouveau l'espérance. Car même s'il doit succomber sous les coups conjugués des SS, des capots, des maladies, contre lesquels l'invisible mais réel réseau de la fraternelle résistance ne pourra rien, il aura su du moins qu'il a été jusqu'au bout un homme, nanti de toutes les valeurs essentielles de l'homme, courage, abnégation, patience, amour, ces valeurs nécessaires, je te l'ai déjà dit, de la fraternité et de l'espérance. Guzen. Encore un peu de nuit qui reste au bord des cils. Encore un épi d'ombre aux gerbes mélangées. Encore un dieu mourant qui reconnaît sa ville et cherche à retrouver ses parents trop âgés. Encore une eau dormante aux vagues mélangées. Encore un vieux sillon qui se plaint de sa graine. Encore un vent courant dans les feux de la plaine. Écoute, qui n'est n'écoute plus le cri de son berger. Encore un grand poème pâle comme la mort, dont la lumière exprime au pied de notre temps un poème sans fin et que sa fin dévore, car il n'a pas voulu notre plaie à son âme. Encore un vers rameau où la paix se balance et dont le fruit stérile a passé dans nos mains, encore un jour perdu pour chacun des silences, où nous avons touché un grand royaume éteint. Encore un amour fou qui relève la tête comme un cerf argenté par les froids du matin, où le chasseur est mort dans sa tenue de fête, encore un peu de brume hurlant autour d'un chien. Encore un peu de cendre où nos pas épuisés ont reconnu les ruines de leurs herbes sévères. Encore un peu de cendre au fond d'une prière où je me trouve errant, mais jamais, mais quand même, mais si pardonner. Lorsqu'à l'intérieur du camp noir est souillé, les nouvelles de l'extérieur, les nouvelles de la guerre que mènent les hommes libres parviennent, quelle résonance n'ont-elles pas qui ravivent, s'il en était besoin, le courage et l'espoir le plus immédiat. Poème écrit par Pierre Gentil en 1944, en juin, à Neuengamme. Demain, Robert Desnos. Âgé de 100 000 ans, j'aurai encore la force de t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses, peut gémir. Le matin est neuf, et le soir. Mais depuis trop de mois, nous vivons à la veille, nous veillons, nous gardons la lumière et le feu, nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille à main, bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents. Si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. Le pouvoir du rêve, le rêve. Sauveur gracieux, délivre notre corps abattu. Le camp se met en route, chacun revient chez soi, la tête rasée, les vêtements à haillons, ronflant pesamment, les prisonniers s'envolent au-dessus des sommets sombres de la Serbie vers le pays qui se cache dans le lointain. Pays qui te cache, patrie, es-tu vraiment? Existe-t-il un toit à l'abri des bombes comme autrefois? Celui qui gémit à gauche, cet autre qui s'étire à droite, seront-ils jamais de retour? Qui comprendra ce poème sans point ni virgule, à tâtons je gribouille des vers, les uns au-dessus des autres aveugles, je progresse sur la page à la manière d'une chenille, j'écris ces vers sans lumière, comme je vis. Entouré d'insectes, de bobards terrifiants, nous vivons là, dans les montagnes, français, polonais, italiens, bavards, serbes, schismatiques, juifs, mélancoliques, forment un seul corps fiévreux, disséqué, vivant, tout. De même, la même vie. Je m'allonge sur ma planche bête captif. Les mouches ne bougent plus, mais les puces renouvellent leurs attaques. Il se fait nuit. Un jour de captivité, un jour de vie en moins. Le camp dort. La lune brille sur le paysage. Les fils de fer semblent encore plus tendus. On voit par la fenêtre les ombres des gardes projetées sur la muraille. Les armes luisent, les pas sonnent et s'absorbent dans le soir. Le camp dort. Regarde, ma douce, les rêves nous effleurent. Ce dernier poème, après celui de Desnos, est extrait du 7e Glog, poème écrit par le député déporté hongrois Miklos Radnoti dans un commandant de travail en Serbie. Le poème fut trouvé dans la poche d'une veste au fond d'une fosse commune, et c'est lui qui permit l'identification du corps du poète. Ah oui, des poètes assassinés, il en est des poètes comme des voyants. Et à cet égard, je veux citer ce poème de Pierre Macaire, officier radiotélégraphiste de la marine marchande. Combattant clandestin, Pierre Macaire fut arrêté par les miliciens, livré à la Gestapo, déporté à Mauthausen. Il mourut d'épuisement à Ebinci le 19 mai 1945, quelques jours après la libération de ce commando. Je suis parti comme on s'endort et ne suis jamais revenu. Et depuis lors, ma vie n'est qu'un reflet qui joue et rit comme celui d'un enfant qui chante au bord de la rivière. Je coule silencieux, mes pensées sont des cercles, naissant et s'étendant à ma surface. Elles viennent de la berge, des mots des autres qui sont sur elle et qui me jettent, ces pierres qui sont des mots. Mon rivage est le temps, Il élargit toujours et mes flots roulent encore plus libres, riant déjà dans leur sac, bleuissant déjà par instant, et je suis la petite source qui se hâte vers l'océan. Et bon, il y en a encore beaucoup, mais j'arrête. Nous allons quitter l'univers concentrationnaire pour rejoindre un grand poète allemand, Henri Heine. Alors, un de ses poèmes qui s'appelle Donna Clara, c'est une sorte de chanson belle d'amour. Donna Clara, dans le jardin baigné par le soir, la fille de l'alcade va doucement. L'éclat des trompettes et des cymbales descend du château jusque-là. Comme je suis lasse de ces danses et de ces compliments doucereux et de ces chevaliers qui me comparent si galamment au soleil. Tout me semble insupportable depuis que j'ai vu à la clarté de la lune ce chevalier dont le luth m'attira de nuit à la fenêtre. Avec sa taille svelte et altière et ses yeux qui brillaient dans un noble et pâle visage, il semblait un vrai Saint-Georges. Ainsi pensait Donna Clara. Elle marchait en baissant le regard. Lorsqu'elle releva les yeux, elle vit le beau chevalier inconnu devant elle. La main dans la main, en chuchotant de tendres propos, ils vont doucement au clair de lune, et le zéphyr les caresse avec amour, comme dans un conte les roses les saluent. Comme dans un conte, les roses les saluent, brûlantes messagères d'amour. Mais dis-moi, ma bien-aimée, pourquoi rougis-tu soudain? Oh, les cousins me piquaient, mon bien-aimé, et je déteste autant les cousins en été que si c'étaient les essaims de juifs au long nez. Laisse là les cousins et les juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Les amandiers en fleurs sèment à terre par milliers leurs blancs flocons. Par milliers, les blancs flocons des amandiers ont répandu leur parfum. Mais dis-moi, ma bien-aimée, ton cœur m'appartient-il tout entier? Oui, je te chéris, mon bien-aimé. Je te le jure par le Sauveur que les Juifs maudits ont traîtreusement mis à mort. Laisse là le Sauveur et les Juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Au loin se balance comme en rêve les lys candides baignés de lumière. Les lys candides baignés de lumière tournent leur regard vers les étoiles. Mais dis-moi, ma bien-aimée, ne m'as-tu pas fait un faux serment? La fausseté n'est point en moi, mon bien-aimé, non plus que dans mon cœur ne coule une seule goutte du sang des morts et de la sordide vengeance des Juifs. Laisse là les morts, les Juifs, dit le chevalier d'une voix caressante. Il entraîne la fille de l'alcade sous un bousquet de myrte. Dans les doux filets de l'amour, il l'a furtivement enlacée. Brève parole, long baiser, et les cœurs ont débordé. Le rossignol gracieux fait entendre un mélodieux épithalame, comme pour exécuter une danse au flambeau, les vers luisants frétillent dans l'herbe. Au bosquet, les voix s'étouffent et l'on entend seulement, comme à la dérobée, le chuchement des myrtes discrets avec la respiration des fleurs. Mais les cymbales et les trompettes retentissent soudain au château et Clara qui s'éveille se dégage des fleurs, des bras, du chevalier. Écoute, c'est moi qu'on appelle, mon bien-aimé, mais avant que nous nous séparions, il faut que tu me dises ton aimable nom que tu m'as si longtemps caché. Et le chevalier, souriant gaiement, baise les doigts de sa dame, lui baise les lèvres et le front et prononce enfin ces mots. Moi, votre amant, Senora, je suis le fils du très célèbre, du docte et grand rabbin Israël de Saragosse. La mer du Nord, toujours avec Henri Heine, purification. Reste en tes gouffres humides, rêve insensé, qui si souvent, dans les nuits d'autrefois, a tourmenté mon cœur d'un faux bonheur et qui, devenu spectre marin, me menace même en plein jour. Reste au fond des eaux pour l'éternité, tandis que je précipite auprès de toi toutes mes douleurs, tous mes péchés et la marotte de la folie dont les grelots ont teinté si longtemps autour de ma tête. Et l'hypocrisie, cette peau des serpents lisses et glacés qui m'a si longtemps serré l'âme, l'âme malade, reniant Dieu, reniant les anges, l'âme condamnée au malheur. Oh, le vent se lève, hissez les voiles, elle clapote et s'enfle sur le calme miroir des eaux périlleuses. Vole le vaisseau, et un grand cri de joie jaillit de l'âme délivrée. Voilà le poème de la mer du Nord qui est une purification. La mer du Nord, très belle mer. Henri N. a vécu longtemps en France et il a beaucoup. Il est né quelques années après la Révolution. Donc, pour lui, c'était le pays de l'émancipation. Émancipateur, un soldat de la liberté. Lui aussi, il était un soldat de la liberté. Et il dit comme ça, gloire aux Français. Ils ont travaillé pour les deux plus grands besoins de la société humaine, la bonne chère et l'art et l'égalité civile. Ils ont fait les plus grands progrès dans l'art culinaire et dans la liberté. Et si nous célébrons tous un jour convives égaux le grand banquet de réconciliation et que nous soyons de bonne humeur, peut-on, en effet, rien imaginer de meilleur qu'une société de pairs assis à une table bien servile? Nous porterons le premier toast aux Français. Il se passera sans doute quelque temps avant qu'on célèbre cette fête, avant que l'émancipation soit chose faite. Mais il viendra enfin ce temps. Nous nous assoirons, réconciliés et égaux, à la même table. Nous serons alors unis et nous combattrons en union les autres fléaux de l'humanité. Peut-être, à la fin, la mort elle-même, dont le sévère système d'égalité, en tout cas, nous blesse moins que la riante doctrine d'inégalité de l'aristocratisme. Ne ris pas, futur lecteur. Chaque siècle croit que sa lutte est la plus importante de tous. C'est la foi propre du siècle, la foi dans laquelle il vit et meurt. Et nous aussi, nous voulons vivre et mourir dans cette religion de liberté, qui mérite peut-être plus le nom de religion que le spectre inconsistant et mort que nous nommons encore en si par habitude. Notre saint combat nous semble le plus important de ceux qu'on ait jamais livrés sur cette terre, quoiqu'un pressentiments historiques nous disent qu'un jour, nos petits-fils considéreront cette lutte avec le même sentiment d'indifférence que nous avons pour les combats des premiers hommes qui ont eu à lutter contre des monstres, des dragons et des géants tout aussi avides. « Nous aurons une belle journée !» me cria du fond de la voiture mon compagnon de voyage. « Oui, nous aurons une belle journée !» répéta tout bas mon cœur en adoration. Et il tressaillit de douce mélancolie et de joie. Oui, ce sera une belle journée. Le soleil de la liberté réchauffera la terre de plus de bonheur que toute cette aristocratie des étoiles. Une nouvelle génération fleurira, engendrée dans des embrassements librement choisis et non plus sur une couche de corvée et sous le contrôle des douaniers ecclésiastiques. Avec une naissance libre se produiront aussi dans les hommes des pensées et des sentiments libres dont nous autres, esclaves nés, n'avons pas la moindre idée. Oh, ils auront eux-mêmes tout autant de peine à imaginer combien était affreuse la nuit dans l'ombre de laquelle nous vivions et quel horrible combat nous avions à soutenir contre des spectres hideux, des hiboux obtus et d'hypocrites criminels. Oh, malheureux combattants que nous sommes, nous qui avons dû dépenser toute notre vie dans un pareil combat et qui nous trouvons fatigués et pâles quand brille le jour de la victoire. La flamme du soleil levant ne suffira pas à empourprer nos joues ni à réchauffer notre cœur. Il nous faut mourir comme cette lune qui disparaît. Elle est si courte pour l'homme, la carrière qui aboutit à l'inexorable tombeau. Je ne sais vraiment si je mérite qu'on dépose un jour la couronne de laurier sur mon cercueil. La poésie, quel que soit mon amour pour elle, n'a jamais été pour moi qu'un jouet consacré ou le saint instrument de fin céleste. Je n'ai jamais attaché un grand prix à la gloire du poète et peu m'importe qu'on loue ou qu'on blâme mes chansons. Mais c'est un glaive que vous déposerez sur mon cercueil, car j'ai été un brave soldat dans la guerre de délivrance de l'humanité. Pouvez, vous autres Français, admirer et aimer la chevalerie. Il ne vous en est resté que de gais chroniques et des armures de fer. Vous ne risquez rien à amuser aussi votre imagination, à satisfaire votre curiosité. Mais chez nous, en Allemagne, la chronique du Moyen-Âge n'est pas close. Les pages les plus récentes restent humides du sang de nos parents et de nos amis et ces cuirasses étincelantes protègent encore le corps vivant de nos bourreaux. Rien ne vous empêche, Français, de briser les vieilles formes gothiques. Pour vous, les grandes cathédrales comme Notre-Dame de Paris ne sont autre chose que de l'architecture et du romantisme. Pour nous, ce sont les plus terribles forteresses de nos ennemis. Pour vous, Satan et ses compagnons infernaux ne sont que de la poésie. Chez nous, il existe des fripons et des sots qui cherchent à réhabiliter philosophiquement la foi au diable et aux crimes infernaux des sorcières. Que cela se passe à Munich, c'est dans l'ordre, mais que dans le Württemberg, éclairé, on tente une justification des vieilles procédures contre les sorcières, qu'un auteur distingué, M. Justinis Kerner, y est entrepris de raviver la croyance au possédé, cela est aussi affligeant que repoussant. Alors, il y a un long texte sur la Prusse. Je crois qu'il faut que vous lisiez Henrienne tout entier, parce que c'était écrit, ça, 8 ans. Il y a quelques années après la Révolution, il est d'ailleurs mort assez jeune. Et très souffrant, très malade. Alors, il a fait un petit poème sur la doctrine. Bat le tambour sans crainte et embrasse la cantinière. Voilà toute la science, voilà le sens caché des livres. Au nom de caisse, tire les gens du sommeil. Au son de la caisse. Bat le réveil avec la vigueur de la jeunesse, marche en avant, toujours, toujours battant. Voilà toute la science. Voilà la philosophie de Hegel, voilà le sens caché des livres. Je les ai compris parce que j'ai de l'esprit et que je suis bon tambour. Ça, c'est un petit poème d'actualité. Pour l'arrivée du veilleur de nuit à Paris. Veilleur de nuit aux longues jambes, vraies jambes de progrès, pourquoi arrives-tu à fond de train si bouleversé, comment vont au pays ceux que j'aime? La patrie est-elle d'ores et déjà délivrée? Tout va à merveille. La paisible bénédiction du ciel se répand sur le foyer que garde la morale et doucement, sûrement, par une voie pacifique, l'Allemagne se développe du dedans au dehors. Ce n'est pas cette prospérité superficielle de la France où la liberté donne le branle à la vie extérieure. L'Allemand ne porte la liberté que dans les profondeurs de son âme.